Si vous voulez bien attendre une petite seconde, je viens de faire 650 km. J'ai conduit avec une remorque et j'ai, si vous voulez bien, je viens de faire 650 km avec Abdou, Abderrahmane Aboubakar et Aminata, Marie-Hélène et Bénédicte. J'ai conduit tout le long parce qu'il y avait la remorque chargée. Et donc, la conduite à une remorque est très dangereuse parfois, dans certaines circonstances. J'ai pas voulu mettre la voiture, dans les mains de quelqu'un d'autre. Bon. Mais Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde paix et grâce au nom de Jésus-Christ. Je vais mettre là. C'est bien. Je suis chez Regula, qui m'apporte une tasse de café. Voilà. Une tasse de café que j'attends depuis des heures parce que ma femme avait un petit thermos de café pour 5 personnes, c'est pas beaucoup. Régula. Alors, je suis en train de rechercher dans mes notes parce que j'ai préparé ma prédication, mais dans le voyage, tout se mélange. Préparer la remorque pour qu'elle puisse partir en état, qu'elle soit étanche, pour que la pluie ne mouille pas tout ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y a 100 kilos de farine à partager chez les chrétiens, dans des églises, et voilà. Et donc, mais on a bien parlé, on a bien discuté, on a ri, on a prié, on a chanté, ça fut un voyage magnifique. Grâce à Dieu, quand on est uni dans le Saint-Esprit, dans la vérité de Dieu, de Jésus-Christ, les choses sont toujours bien plus légères à porter. Mais à 74 ans, 74 ans, une remorque, une voiture, parfois on a essuyé de grosses averses et c'était parfois même dangereux. Mais voilà, le petit troupeau ne doit rien craindre. Un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume, paix, justice et amour et joie selon le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Soyez bénis, chers amis. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Bénis tous ceux qui sont là, qui sont réunis autour du petit écran. Bénis-les. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais faire un vis-à-vis. Ma volonté est la souveraineté de Dieu. Pourquoi, Seigneur, m'être égaré pendant tant d'années dans ma vie? Pourquoi m'as-tu laissé pendant tant d'années prendre des décisions qui ne m'ont apporté que des ennuis? Pourquoi, Seigneur, m'as-tu laissé faire alors que je n'ai pas été heureux dans tout ce que j'ai entrepris? C'est longtemps, longtemps, beaucoup plus tard, Seigneur, que j'ai compris le chemin avec toi, que j'ai compris. Mais pourquoi, Seigneur, m'avoir laissé faire, me laisser m'égarer aussi longtemps? Pourquoi tant de péchés dans ma vie? Mais pourquoi tant de péchés dans la vie des autres? Bonjour Christiane, bonjour Annette, bonjour Fatima et beaucoup d'autres. Pourquoi tant de péchés sur la terre? Pourquoi tant de personnes qui sont mal respectées par les autres, qui sont mal aimées, qui sont handicapées? Pourquoi tant de personnes persécutées? Pourquoi tant d'années de Jésus, de Nazareth, perdu à Nazareth, à trimer, à faire le boulot avec Marie et les enfants, puisque Joseph était décédé. côté des bois, à construire des maisons, à perforer, à mettre des chevilles, etc., dans des échelles, dans des petits véhicules. Pourquoi Jésus a-t-il passé tant d'années à vivre comme nous, sans le péché, évidemment? Pourquoi si peu d'années à prêcher, seulement 3 ans, et 30 à 34 ans de vie à trimer comme les autres? Pourquoi si vite la mort, alors qu'il était si bon, si vrai, si juste, si aimant? Pourquoi, à lui, en pleine force de l'âge viril, était célibataire, pas de femme, pas d'enfant? Pourquoi? Parce qu'il s'occupait des enfants, de la famille? Et une veuve? Peut-être, peut-être. Toujours que voilà des questions où sans doute Dieu savait d'avance ce qui allait nous arriver. Dieu savait, connaissait d'avance ce que nous ferions. Dieu savait d'avance ce que nous ferions en bien et en mal. Mais pour Jésus, Dieu savait d'avance tout le mal qu'on allait lui faire. Et il savait d'avance tout le bien que Jésus allait nous faire. Et Dieu sait encore qu'aujourd'hui, Jésus nous fait du bien, que son Saint-Esprit fait du bien sur la terre. Alors, je pense, en priant, j'ai trouvé plusieurs explications à tous ces sujets qui m'ont tarabusté. Je me suis relevé, c'est pas la nuit passée, hein. Préparer cette prédication, je m'étais relevé pendant la nuit. À un moment donné, ça arrive, je suis poussé à me lever pour prier pour le Pakistan, pour prier pour telle et telle personne, et même parfois pour des personnes, lève-toi, prie, parce qu'il y a des personnes qui se font torturer pour mon nom, des personnes qui se font violer parce qu'elles ne croient en moi, et des personnes qui ne croient pas en moi mais qui sont aussi victimes, prie. Relève-toi, même si tu ne les connais pas. Chers amis, cette tâche de prier pour les autres gratuitement, sans savoir pour qui, mais du fond du cœur, en bénissant le monde, en bénissant ceux qui souffrent, en bénissant ceux qui font souffrir, est une tâche immense. Le chrétien doit apprendre à prier pour les autres gratuitement, tous les jours. Jésus au ciel prie pour nous. Jésus intercède auprès du Père du ciel pour nous. Jean chapitre 17, lisez le chapitre 17, vous le verrez. Ne m'alarme pas, ne m'attriste pas. Pourtant, il m'a déjà beaucoup attristé et bouleversé. Pourquoi? Oui, j'éprouve souvent une grande tristesse, un grand chagrin continuel face au mal qu'il y a sur la terre. Glorifie-toi. J'éprouve une grande tristesse souvent pour mes frères, mes parents, selon la chair. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je suis à genoux. J'intercède au trône de gloire pour eux, au nom de Jésus. Dispense tes grâces sur eux. Seigneur, révèle-toi à eux. Alors, chers amis, nous allons prendre la Bible maintenant. Tout cela, c'était un préambule. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 25. Priez pour que Internet ne se coupe pas continuellement, parce que la ferme est très isolée, c'est pas toujours facile d'avoir la bonne connexion. Priez en même temps que vous écoutez. Au nom de Jésus. Je me trompe. Je me suis trompé. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie, chapitre 9, verset 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Notre bonheur, notre gloire intérieure, notre force intérieure repose sur une connaissance, une relation de Dieu vivant. Nous avons, pendant la route, fait la liste un petit peu, Marianne et moi et Bénédicte, d'un tas de gens qui sont passés chez nous. Un tas de gens pour qui on a prié. Il y en a qui ont été guéris, dont leur situation s'est améliorée. Mais ils sont chrétiens. Oui, ils ont une façade de religion, mais ça, c'est pas être chrétien pour moi. Dieu n'a pas demandé une façade, il a demandé le cœur profondément touché par sa parole, vivant de sa parole, vivant de sa présence. Et que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut demander de l'intelligence à Dieu. Romains 12. Il faut demander à Christ de renouveler notre intelligence. Ce n'est pas que nous sommes intelligents en naissant, et même si nous avons de l'expérience de 20, 30 ans, 40 ans d'expérience ou 60 ans, nous ne sommes pas intelligents. Depuis qu'Adam et Ève ont coupé les ponts avec Dieu, nous ne connaissons que des choses ébranlées, des choses qui ne vont pas ensemble. Pour avoir une saine intelligence, il faut savoir qui est Jésus. Donc c'est dit ceci, avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. Voici les jours les circoncis qui ne sont pas dans leur cœur. Donc les Juifs, les musulmans sont circoncis, oui, on a tiré un petit peu de chair là, sur le moineau, mais ce qui a le cœur. C'est là que se passent les choses. C'est pas la façade de la religion. Il faut que le cœur soit incisé, opéré. Il faut que le chirurgien divin opère dans mon cœur et tire le mauvais cœur et donne un nouveau cœur. Au chapitre 10 de Jérémie, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël, à nous aussi. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Il n'y a pas de nation bonne sur la terre. Il n'y a pas de peuple souverain, de peuple bon sur la terre. Chacun aime son pays, sa langue, mais il n'y en a aucun qui peut dire qu'il est propre. Tous ont fait la guerre, tous ont fait du mal. Tous sont remplis d'orgueil. C'est ma nation, c'est mon pays. Vous me direz, c'est normal d'avoir un pays et de... Lui, il a une nation, une seule nation, celle du ciel. Abraham comptait, lui qui vivait dans une région très riche, à Ur en Chaldée, il y a 42 siècles, il comptait sur la nation du ciel, première épître de Pierre, chapitre 2, vous êtes une race élue, donc choisie, un sacerdoce royal, donc vous pouvez prier directement en mon nom, devant ma face. Plus besoin de rituels religieux. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu pardon, miséricorde pour vos péchés, qui maintenant avez obtenu miséricorde à la croix de Jésus. Nous voyons bien dans ce texte, on se leurre. Qui est le bon? L'Ukraine ou la Russie? Qui est le bon? La Chine ou Formose? Qui est le bon? L'Irak ou la Syrie? Qui est le bon? Qui est le bon? La Belgique avec ses frites ou la France avec son pastis, son président, et la Belgique avec son roi? Aucun peuple n'est propre. Et il faut faire partie d'un nouveau peuple, un nouveau peuple fondé par Dieu, par Jésus, un peuple qui a le cœur de Dieu en lui, Et ça, chers amis, ne vous y méprenez pas. Il n'y a aucune nation qui plaît à Dieu actuellement dans l'état où elle se trouve. Et maintenant, il y aura de plus en plus de conflits sur la terre. Les hommes vont montrer ce que sont leur nation, leur peuple, leur culture de péché. Il ne faut pas s'enorgueillir d'une nation ou d'un pays. Si vous avez accepté Jésus, votre nation est au ciel. Votre nation est avec les saints, les anges, avec Dieu. Le jour que Jésus revient sur la terre, il va montrer sa nation. En serez-vous un des membres? Prenez le cas, par exemple, de Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe est un prêtre, un intellectuel, un homme très dévoué au Seigneur qui a travaillé sous 4 rois successifs en Israël. 2 passablement fidèles à Dieu et 2 tordus. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc il a la vision de Dieu. Les séraphins se tenaient autour de lui, au-dessus de lui. Séraphins, c'est des anges qui servent à louer Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint ». De la gloire de Dieu. Tout ce qui existe, c'est par Dieu, par sa gloire. Et nos nations n'ont pas de gloire semblable à celle de Dieu. Les portes furent ébranlées dans leur... Excusez-moi, la connexion n'est pas brillante. Hein. Chapitre 6, verset 5. Malheur à moi, je dis à Dieu, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi du ciel, l'Éternel des armées. Qu'est-ce que fait Ésaïe? J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Voilà ce que nous sommes dans notre peuple, dans notre nation, quelle que soit notre culture, notre origine. Et ici, cet homme, ce grand homme Ésaïe, qui a été scié, vivant à la fin de sa vie, qui a été torturé, scié, sans anesthésie, eh bien, pratiquement, il a un amour de Dieu incommensurable. Et il dit ceci, « Je ne peux pas te servir, mon Dieu, si tu ne me purifies pas. » Alors, au verset 6, Ésaïe 6, verset 6, il tenait à la main une pierre ardente, un charbon ardent, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton péché est enlevé, ton iniquité est enlevée et expiée. » Nous voyons que Dieu a un cadeau pour Ésaïe, parce qu'il est humble. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, nous pouvons considérer, je vous ai posé plein de questions, j'ai exprimé beaucoup de questions avant, pourquoi m'être égaré aussi longtemps, etc. Pourquoi tant de péchés sur la terre? Pourquoi tant de personnes mal respectées? Pourquoi tant d'années de vie perdues? Simplement, acceptez que Jésus, aujourd'hui, ou demain, ou ce soir, la nuit, ou dans 5 minutes, dans le cœur. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Donc Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit. Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il ose servir le Seigneur, il a un cœur honnête, il sait qu'il peut servir le Seigneur, parce que Dieu a fait quelque chose en lui, il a changé l'état de son cœur. Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez pas, vous verrez, vous ne saisirez pas. Qu'est-ce que c'est de ça? Dieu est en train de montrer à Ésaïe que lui vient d'être guéri, d'être purifié, parce qu'il s'est humblement abaissé devant Dieu, il a reconnu son état, et Dieu l'a gratifié de la purification de ses péchés, de sa vie, de son cœur, de son âme, de sa pensée. Mais ce qu'il y a, il dit, tu vas aller alors, de quel côté êtes-vous, chers amis? de celui qui reconnaît humblement devant le Seigneur qu'il a besoin d'être purifié et qui doit apprendre aux autres aussi la même chose, servir Dieu, servir la sainteté. Êtes-vous de ceux qui s'endurcissent, qui ne veulent rien comprendre? Alors Dieu bouchera encore plus vos oreilles, bouchera encore plus votre intelligence. Il vous retirera ce que vous avez déjà eu à la naissance, puisque vous ne voulez pas aller vers lui. Tu leur diras ceci, va dire à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez pas, vous verrez, vous ne saisirez point, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. Jusqu'à quand, Seigneur ? Ésaïe sait très bien qu'un jour Dieu va pardonner et va faire grâce. Tous les peuples. C'est le miroir de tous les peuples. Tout le monde affiche une religion, une langue, une nation, un drapeau. Mais personne ne veut être humilié. Personne ne veut comprendre que c'est du cœur que vient la conversion, qu'il faut un changement. Chers amis, j'en ai assez dit, je pense, pour que vous compreniez l'intention de Dieu. Il vous attend. Si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, c'est très bien. Alors, que vous propose Dieu ? Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, tu as été fâché contre moi, mais ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Vous voyez, là, le cœur qui est guéri, voilà. Car l'Éternel est ma force et le sujet de toutes mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé de mon aveuglement. De mon cœur dur. Verset 5, Isaïe 12, verset 5. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Chers amis, Dieu est grand au milieu de nos vies. Si nous avons un cœur humble qui l'accueille. Je veux dire que ma volonté va à l'échec. Ensuite, la grâce de Dieu me conduit à la réussite. C'est d'attendre le moment où je vais confesser mon endurcissement, mon égarement, et où je vais lui avouer que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ça coupe tout le temps. Très libre. Dieu nous a donné la liberté, Adam nous a donné le péché. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je pense qu'il faut renoncer au péché et garder la liberté, et la vraie liberté. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Tout ce qui est dit dans la Bible, vous n'y comprenez rien. C'est comme un livre qui est fermé. Vous n'arrivez pas à en trouver le sens. Vous n'y comprenez rien. Vous ne vous y retrouvez pas. C'est ça. C'est ça qu'il a dit. Ésaïe 29, 11. Toute la révélation de Dieu à travers l'Écriture est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, fermé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Pourquoi ne sait-il pas lire? Pourquoi est-il incapable de comprendre la parole de Dieu? Et voilà, Ésaïe, chapitre 29, verset 13. « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Vous voyez les singeries extérieur. Et tout le monde est capable de faire ça. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On a peur de l'enfer, c'est tout. Mais du moment que je suis baptisé, marié et enterré à l'église, ben ça va, je suis sauvé. Mais ça, c'est clair. De tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. La sagesse des sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Voilà que Dieu est à l'œuvre. Et comment? Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple. Donnez-lui du bonheur. Donnez-lui la paix. Donnez-lui la joie. Donnez-lui le bonheur. Mais comment? Il faut prêcher la parole de Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude du péché est finie, que son iniquité, opposition volontaire à Dieu, est expiée, payée par le sang de Jésus à la croix, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Donc la grâce est au double de nos péchés. La grâce de Dieu surabonde. Préparez au désert, le désert, c'est tous les humains. Le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Combien d'obstacles nous mettons volontairement devant. Ésaïe 40, verset 4, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. C'est-à-dire que tous les obstacles disparaissent, qu'on ait une marche constante, paisible, sans difficulté. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et une voix dit « Crie !» Il répond « Que crierai-je ? » « Crie, que toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur des champs. Tout homme est comme une herbe, comme une fleur qui fane. » L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Chers amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que la clé de votre vie, la clé de ma vie est tout près de moi. Dieu est proche, Dieu est présent. Mais vais-je l'aimer ? Au chapitre 40, verset 7, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut humainement sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent et ne se fatiguent point. J'en ai fait l'expérience à 16 ans en lisant l'Évangile, 16 ans et demi. C'est comme si j'avais bu du kérosène. Et 74 ans, c'est le kérosène est toujours. Alors, prenons Ésaïe 41, excusez-moi pour cette wifi qui ne va pas trop bien, 41, verset 8. Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. La race d'Abraham, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ, hein. N'oublie pas. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Quelle est la force de notre société de péché? L'inquiétude. L'inquiétude est la forme la plus répandue, une forme latente de la. C'est ça qu'on arrive avec l'argent, les factures, la hausse des prix, les hausses des carburants, de tout. L'inquiétude. Chers amis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pouvez-vous dire cela un jour à Dieu, humblement, à genoux dans votre chambre, ou dans la voiture, ou en vous promenant, vous arrêtez la voiture, vous arrêtez votre boulot, vous arrêtez de vous acharner dans vos activités, et vous allez dire ça à Dieu, tout seul, seul à seul. Qu'est-ce que dit Dieu à propos de Jésus ? Dans Ésaïe chapitre 42, le prophète annonce Jésus. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, donc Jésus, mon élu en qui j'ai, mon Messie, mon Jésus, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Donc c'est les paroles qui sont dites dans Jésus à Jésus, quand l'Esprit Saint devient sur lui. Et des disciples. Que fait Jésus ? Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé. Donc, nous, les humains, inquiets. Jésus ne brisera point le roseau cassé. 42, Ésaïe 42, verset 3. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Une petite mèche là dans une lampe hein, à pétrole. Dieu ne veut pas nous éteindre, Dieu ne veut pas nous casser. Mais on se casse par nous-mêmes, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on s'acharne à vouloir rester comme on est. Alors que Dieu nous aime et veut nous relever, nous redonner la lumière, nous redresser. Alors, verset 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Ils ont le captif. Combien d'humains sont captifs, sont en prison dans notre société. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas la lumière divine. Qu'est-ce que dit Dieu ? Les premières choses se sont accomplies dans les temps du péché. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, vous qui la peuplez, îles, habitants des îles, etc. Donc, Dieu a un programme de bonheur pour nous et de consolation. Y croyez-vous ? Ou faut-il que vous soyez encore plus bas dans les problèmes pour le demander à Dieu ? Il n'est pas nécessaire d'attendre et de souffrir inutilement, chers amis. Ça s'appelle du masochisme spirituel. L'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Il n'y a pas d'enfer pour ceux que Dieu, à qui il donne son salut. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, mais qui ne voient rien, qui n'entendent rien, n'est-ce pas nous ? Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé toutes ces choses ? Lesquels nous ont fait entendre de telles prédictions ? Chers amis, Dieu a donné les prophètes et la Bible et Jésus-Christ et les apôtres. C'est là que nous trouvons l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de son salut. Il est dans toutes les langues. Vous pouvez le regarder en chinois, en portugais, en russe. Ça dure 3h15, mais c'est le temps de 3h15 qui est nécessaire. Pour vous, car vous n'avez pas pris assez. Vous pouvez regarder l'évangile de Luc, c'est quasiment 2 heures, 1h15. Vous pouvez regarder l'évangile selon de Jésus-Christ, selon Zeffirelli, il y en a pour 5h30. C'est un très beau film aussi. Vous pouvez aussi sur Netflix regarder Paul, apôtre de Christ, qui est en prison. Vous pouvez regarder un autre film, Merveille du ciel, ou Miracle du ciel. vous aurez un apprentissage de l'amour de Christ. Je voudrais en venir à une prophétie d'Osée. Osée, je trouve que c'est une phrase formidable. 11, verset 4. Je les tirerai avec des liens d'humanité. Qui est plus humain que Jésus, puisqu'ils sont péchés? Voilà les liens d'humanité. Je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. N'est-ce pas des forces, des cordages pour tirer, nous tirer dans l'amour de Christ? Oui, parce que nous sommes trop inertes, nous sommes trop passifs, nous manquons d'amour. Il faut tout recevoir. Il faut être tiré par des cordages d'amour. Il faut être tiré par un amour infini. Infini. Un amour très puissant qui est nécessaire dans Osée. Au chapitre 12, verset 7, « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, donc une profonde relation avec Dieu, et la justice. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, donc la foi et la justice, espère toujours en ton Dieu. » Et dans Osée encore, au chapitre 14, « Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton péché. Apportez avec vous des paroles, revenez à l'Éternel. » Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. Voilà l'humilité. Nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Je pense, mes amis, que je vais arrêter aujourd'hui parce qu'ils m'attendent. Et puis je suis fatigué du voyage à 6 heures. Je voudrais vous dire que si Dieu dit, je te tirerai avec des cordages d'amour, c'est que nous sommes inertes, endormis ou rebelles. Et il nous... Pourquoi nous tire-t-il aussi puissamment? Pourquoi veut-il nous tirer? Pourquoi? Parce que il nous aime et veut nous faire connaître la richesse de son amour, de son cœur. Et vous savez que clairement dans l'évangile de Jean, il est mis ceci. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, vous gardez ma parole, mon Père et moi, nous viendrons, nous vous aimerons, et nous ferons notre demeure en vous. N'est-ce pas le plus beau cadeau? Que vous soyez la maison du Seigneur, vous soyez l'ami de Dieu, vous soyez celui qui héberge Dieu dans son cœur, à jamais, éternellement. N'est-ce pas beau de savoir que votre corps ressuscitera son chagrin, que votre esprit sera guéri de toutes ses limites, de tous ses égarements. N'est-ce pas beau, chers amis, de passer des ténèbres à la lumière. Je termine avec ce verset en Colossiens, chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en Dieu. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, donc le salut, le pardon des péchés. Rendez grâce au Père. À bientôt. Je pense que la fatigue est trop grande pour moi. Demain après-midi,